Petit récit. Franz Kafka. Le nouvel avocat. Nous avons un nouvel avocat, Maître Bucéphale. Dans son aspect extérieur, peu de choses rappellent l'époque où il était encore destrier d'Alexandre de Macédoine. On en remarque néanmoins quelques-unes pour peu qu'on soit au courant des faits. C'est ainsi que j'ai bien vu, l'autre jour, un simple petit employé du tribunal qui, sur le grand escalier, jetait le regard admiratif et averti du modeste habitué des champs de course sur notre avocat, tandis que celui-ci, levant haut les cuisses, gravissait les degrés de marbre d'un pas sonore. D'une façon générale, notre cabinet approuve l'arrivée de Bucéphale. Avec une étonnante clarté de vue, l'on se dit que, vu la manière dont la société est organisée de nos jours, Bucéphale se trouve dans une situation difficile et que, pour cette raison, et à cause également du rôle qu'il a joué dans l'histoire, il mérite en tout cas qu'on lui fasse bonne figure. Aujourd'hui, nul ne saurait le nier, il n'y a pas d'Alexandre le Grand. Certes, bien des gens s'y entendent en matière de meurtre, l'adresse nécessaire pour décocher un coup de lance à son ami par-dessus la table d'un banquet n'est pas rare non plus, et beaucoup se trouvent trop à l'étroit en Macédoine, si bien qu'ils maudissent Philippe, le père. Mais personne, personne n'est capable de conduire vers les Indes. À l'époque déjà, les portes des Indes étaient inaccessibles, mais leur direction était indiquée par le glaive royal. Aujourd'hui, les portes sont transférées tout à fait ailleurs, et plus loin, et plus haut. Personne n'indique la direction. Nombreux sont ceux qui tiennent des glaives, mais ce n'est que pour gesticuler. Et le regard qui prétend les suivre s'égare. Peut-être que le mieux est donc, effectivement, comme l'a fait Bucéphale, de se plonger dans les codes de loi. Libre, ses flancs dégagés du poids des reins qui le chevauchaient, sous une lampe silencieuse, loin du fracas de la bataille d'Alexandre, il lit et tourne les pages de nos vieux livres. Un fratricide. Il est établi que le meurtre s'est déroulé de la façon suivante. Schmar, le meurtrier, s'était posté vers 9h du soir par une nuit de clair de lune au coin de rue où devait passer Vese, la victime, pour tourner de la rue où se trouvait son bureau, dans la rue où il habitait. Air froid de la nuit à faire frissonner tout le monde. Mais Schmar n'avait mis qu'un mince costume bleu. Sa courte veste était de surcroît déboutonnée. Il ne sentait pas le froid. De plus, il bougeait sans cesse. L'arme du crime, mi-baïonnette, mi-couteau de cuisine, était nue dans sa main qui la serrait solidement. Il examinait le couteau en le levant au clair de lune. Le tranchant étincelait. Pas suffisant pour Schmar. Il en frappait les briques du sol à en faire jaillir des étincelles, le regrettait peut-être, et pour réparer les dégâts en jouait comme d'un archer sur la semelle de sa bottine, tandis qu'en équilibre sur un pied, il écoutait tout à la fois le bruit du couteau sur sa chaussure et les sons qui pouvaient provenir de la funeste rue transversale. Pourquoi le rentier Pallas laissait-il faire, lui qui observait tout de près, depuis sa fenêtre du deuxième étage? Insondable nature humaine. Le col relevé, la robe de chambre sanglée sur son ventre imposant, il hochait la tête en regardant dans la rue. Et À 5 immeubles de là, en oblique par rapport à lui, Madame Vaise avait jeté son renard par-dessus sa chemise de nuit pour guetter un mari qui, ce soir-là, tardait anormalement. Résonne enfin la sonnette de la porte du bureau de Vaise. Trop bruyante pour une sonnette de porte. On l'entend par toute la ville et jusqu'au ciel, et là-bas sort de l'immeuble le laborieux Vaise quittant son travail nocturne. Il est encore invisible dans cette rue. Seule la sonnette l'a annoncé, et déjà le pavé compte ses pas tranquilles. Pallas se penche bien bas. Il ne doit pas en perdre une miette. Madame Vaise, rassurée par la sonnette, referme bruyamment sa fenêtre. Schmar, quant à lui, s'agenouille. Rien d'autre n'étant chez lui exposé pour l'instant, il ne presse contre les pavés que son visage et ses mains, quand tout gèle, lui, est brûlant. À la limite exacte des deux rues, Vaise s'arrête, ne s'appuyant que de sa canne dans la deuxième rue. Une fantaisie. C'est le ciel nocturne qui l'a séduit, le bleu profond et le doré. Sans savoir, il le regarde, sans savoir, il se passe la main dans les cheveux en soulevant son chapeau. Là-haut, rien ne bouge pour lui indiquer l'immédiat avenir. Tout reste à sa place absurde et insondable. C'est en soi-même fort raisonnable que Vaise se remet en marche. Sauf qu'il marche vers le couteau de Schmar.
Vaise !
Crie Schmar, dressé sur la pointe des pieds, le bras brandi en l'air, le couteau cruellement abaissé.
Vaise ! Julia attend pour rien !
Et Schmar frappe dans la gorge à droite, et dans la gorge à gauche, et troisièmement en plein ventre. Les rats d'égout, quand on leur fend le ventre, font un bruit semblable à celui que fit Vaise. C'est fait, dit Schmar, et il lance le couteau, cet embarras sanguinolent et superflu contre la façade la plus proche. Félicité du meurtre! Soulagement, des ailes vous poussent de voir couler le sang d'autrui. Vaise, vieux noctambule, ami et copain de comptoir, tu te vides goutte à goutte dans le creux noir d'une rue. Que n'es-tu simplement une vessie pleine de sang, que je m'assoie sur toi et te fasse disparaître d'un coup? Tout n'est pas accompli. Les fruits n'ont pas passé les promesses des fleurs. Ta dépouille pesante est là par terre qui échappe déjà à tous les coups de pied. Qu'est-ce que cette question muette que tu me poses ainsi?
Pallas, déglutissant dans son abdomen tous ses poisons mêlés, se tient debout entre les deux battants de son porche ouvert d'un coup.
« Schmar ! Schmar ! Tout vu, rien raté !»
Pallas et Schmar se toisent. Pallas est content. Schmar ne sait conclure. Madame Vaise accourt, le visage tout vieilli de terreur, avec une foule de chaque côté. Son manteau de renard s'ouvre, elle s'effondre sur Vaise. Ce corps en chemise de nuit lui appartient, tandis que le manteau qui se referme sur le couple, comme le gazon d'une tombe, appartient à la foule. Schmar, réprimant, dents serrées, la dernière nausée, pressant sa bouche sur l'épaule de l'agent de police qui l'emmène d'un pas léger.
Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Je me donne un mal de chien, mais je ne comprends pas tout. Je me donne un mal de chien, je n'en viens pas à bout. À cause des musiciens, yeah, yeah, qui jouent près de moi, je ne peux pas lire ici. Je ne le répéterai pas, je ne peux pas lire ici. C'est bête ça, je ne peux pas lire ici. Ça. Et dis donc, Nino, tu peux pas jouer moins fort? Faut que je me cultive. Et dis donc, Nino, Kafka, c'est pas Astérix? Moins fort, Nino, j'ai les nerfs qui lâchent. Grâce à ces musiciens, j'entrevois tout à coup l'univers kafkaïen qui rend les hommes fous. L'univers kafkaïen, oh yeah, moi je l'ai chez moi, c'est bien le dernier mois que je passerai là. Je ne veux plus vivre ici, je ne resterai pas, car si je reste ici, oh yes, ça oui je le vois, car si je reste ici, je ne me cultiverai pas, je ne peux pas lire ici, car c'est très calé Kafka.
Une visite dans la mine. Aujourd'hui, les ingénieurs les plus haut placés sont descendus au fond, chez nous. Il y a eu quelques instructions émanant de la direction comme quoi l'on doit percer de nouvelles galeries et les ingénieurs sont venus procéder au premier relevé. Comme ces gens sont jeunes et néanmoins déjà si différents, ils se sont tous développés librement et leur caractère nettement affirmé se manifeste sans entrave dès leur jeune âge. L'un d'eux, vif, les cheveux noirs, a les yeux qui furettent dans toutes les directions. Un deuxième, un bloc à la main, prend des notes en marchant, regarde alentour, compare, inscrit. Un troisième, les mains dans les poches de son veston, de sorte que sur lui tout est tendu, se tient bien droit en marchant, conserve sa dignité. Il n'y a que sa façon de se mordre constamment les lèvres qui révèle sa jeunesse impatiente, irrépressible. Un quatrième fournit au troisième des explications que celui-ci ne demande pas. Plus petit que lui, trottant à son côté comme un tentateur, il semble, avec son index toujours en l'air, lui chanter une litanie sur tout ce qu'il y a à voir. Un cinquième, peut-être le plus haut placé dans la hiérarchie, ne tolère personne à ses côtés, est tantôt en tête, tantôt en queue. Le groupe règle son pas sur lui, il est pâle et chétif, les responsabilités lui ont donné des cernes autour des yeux. Souvent, en réfléchissant, il se presse la main sur le front. Le sixième et le septième marchent un peu courbés, tête contre tête, bras dessus, bras dessous, en grande conversation. S'il n'était pas évident que c'est ici notre mine de charbon et notre poste de travail dans la galerie la plus profonde, on pourrait croire que ces messieurs imberbes, osseux et au gros nez épaté sont des jeunes ecclésiastiques. L'un, la plupart du temps, rit sous cape avec un ronronnement de chat. L'autre est souriant aussi. C'est lui qui mène la conversation en battant de sa main libre une sorte de mesure. Comme il faut que ces deux messieurs soient sûrs de leur poste et même quelques services, il faut qu'ils aient déjà rendu à notre mine, en dépit de leur jeunesse, pour se permettre ici, lors d'une visite si importante sous les yeux de leur chef, de s'occuper aussi carrément d'affaires purement privées, ou du moins sans rapport avec le travail du moment. Comme il faut que ces deux messieurs soient sûrs de leur poste. Et même quelques services il faut qu'ils aient déjà rendus à notre mine, en dépit de leur jeunesse, pour se permettre ici, lors d'une visite si importante, sous les yeux de leur chef, de s'occuper aussi carrément d'affaires purement privées, ou du moins sans rapport avec le travail du moment. À moins que, peut-être, en dépit de tous ces rires et de toutes ces inattentions, ils notent fort bien ce qui est nécessaire. C'est à peine si l'on ose, sur des messieurs comme cela, porter un jugement tranché. Mais, d'autre part, il est tout de même hors de doute aussi que le huitième, par exemple, est incomparablement plus affairé que ces deux-là,
voire que tous les autres messieurs. Tout ce qui se présente, il faut qu'il le touche et le tapote avec un petit marteau qu'il tire sans cesse de sa poche pour l'y remettre ensuite à l'abri. Parfois, il s'agenouille dans la saleté, bien qu'il soit vêtu avec élégance, et tapote le sol, tantôt encore qu'il frappe juste en marchant les parois, ou bien le plafond au-dessus de sa tête. À un moment, il s'est étendu de tout son long, et est resté comme ça sans piper mot. Nous pensions déjà qu'il était arrivé un malheur, mais ensuite il s'est remis debout d'un bond, avec un petit mouvement nerveux de son corps élancé. Il venait donc seulement de procéder à un nouvel examen. Nous croyons connaître notre mine et ses roches, mais ce que cet ingénieur étudie constamment de la sorte, cela nous est incompréhensible. Un neuvième pousse devant lui une espèce de voiture d'enfant où sont les appareils de mesure. Des appareils extrêmement précieux, reposant dans la ouate la plus fine. Ce chariot devrait être en fait poussé par un petit employé à qui pourtant on ne le confie pas. Il n'y fallait rien de moins qu'un ingénieur. Et celui-ci s'en charge de bon cœur, comme on voit. Ce doit être le plus jeune. Peut-être est-il encore loin de comprendre tous les appareils, mais son regard est constamment rivé sur eux au point que parfois il manque de percuter une paroi avec le chariot. Mais il y a un autre ingénieur qui escorte le chariot et prend garde à cela. Lui comprend manifestement les appareils à fond et paraît être leur véritable dépositaire. De temps à autre, sans arrêter le chariot, il y prend un élément de cet appareillage, le regarde à contre-jour, le tourne pour l'ouvrir ou le fermer, le secoue et le tapote, le porte à son oreille et écoute. Et finalement, tandis que généralement le conducteur du chariot s'arrête, il repose à sa place avec infiniment de précaution cette petite chose à peine visible de loin. Cet ingénieur est un peu autoritaire. Mais c'est seulement au nom des appareils. À 10 pas devant le chariot, nous sommes déjà censés, sur un signe silencieux de son doigt, nous écarter pour lui faire place, même quand il n'y a pas de place pour s'écarter. Derrière ces deux messieurs marche le petit employé qui n'a rien à faire. Les messieurs, comme il est tout naturel lorsqu'on est aussi savant, se sont depuis longtemps dépouillés de tout orgueil, alors que l'employé semble en avoir fait ample provision. Une main dans le dos et l'autre caressant par devant ses boutons dorés ou le drap fin de sa veste d'uniforme, il fait souvent de petits signes de tête à droite et à gauche, comme si nous l'avions salué mais qu'il nous répondait, ou comme s'il supposait que nous l'avons salué mais sans qu'il puisse le vérifier à la hauteur où il se situe. Naturellement, nous ne le saluons pas. Il n'empêche qu'à le voir, on croirait pour un peu que c'est une chose prodigieuse que d'être employé aux écritures auprès de la direction de la mine. J'avoue que nous rions derrière son dos, mais quand même, un coup de tonnerre ne le ferait pas se retourner. Nous conservons tout de même pour lui la considération qu'on éprouve devant ce qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on ne travaillera plus guère. L'interruption a été trop importante. Une telle visite emporte avec elle, en repartant, toute idée de travail. Il est par trop tentant de suivre ces messieurs du regard dans l'obscurité du boyau d'exploration où ils ont tous disparu. Du reste, notre équipe remonte bientôt. Nous n'assisterons pas au retour de ces messieurs. des gratins. Si, sur la piste, quelques chétives écuyères poitrinaires étaient forcées par l'impitoyable chef brandissant son fouet de tourner sans cesse en rond pendant des mois sur une monture vacillante devant un public inlassable, filant toute vibrante sur son cheval, lançant des baisers, ployant et courbant la taille, et si ce jeu, dans le grondement ininterrompu de l'orchestre et des ventilateurs, se poursuivait dans l'avenir gris de plus en plus béant, accompagné des applaudissements s'étiolant et s'enflant à nouveau des mains qui sont en fait autant de marteaux-pilons, peut-être qu'alors, un jeune spectateur du haut des gradins dévalerait le long escalier qui descend à travers toutes les rangées, se précipiterait sur la piste, crierait le « Stop !» au milieu des fanfares de cet orchestre qui toujours s'adapte. Mais comme il n'en est rien, comme une belle dame blanche et rouge fait une entrée aérienne entre les rideaux qu'écartent devant elle les hommes en livrée et de fière allure, comme le directeur, qui étend dévotement son regard, ne respire que pour l'accueillir avec une humilité d'animal, comme il la hisse sur le cheval blanc pommelé avec autant de précaution que si elle était la petite fille qu'il aimait plus que tout au monde et qui partait pour un voyage périlleux, comme il ne peut se résoudre à donner le signal d'un coup de fouet, comme enfin il prend sur lui et le donne d'un claquement, court, bouche bée à côté du cheval, suit d'un regard aigu les sauts de l'écuyère, n'en revient pas de tant de virtuosité, tente de mettre en garde en criant des mots anglais, incite rageusement à la plus minutieuse attention les garçons de piste qui tiennent les cerceaux, les mains tendues, conjure l'orchestre de bien vouloir faire silence au moment du grand saut périlleux, et pour finir enlève la petite du cheval frémissant, l'embrasse sur les deux joues et n'estime suffisant aucun hommage du public, tandis qu'elle-même, s'appuyant sur lui, dressée sur la pointe des pieds, auréolée de poussière, les bras grands ouverts et sa petite tête rejetée en arrière, veut partager son bonheur avec le cirque tout entier. Comme il en est ainsi, le spectateur, du haut des gradins, pose le visage sur la balustrade et, sombrant dans la marche finale comme en un rêve pénible, pleure. Sans le savoir.
Hob mir gewandert in a land of freien, a rois von Midbar wie Mitzrayim, gesucht an Ayem Jerusalem. Dus is a land for mir und dir. Dus land is dein Land, dus land is mein Land, von Kalifornie bis Ellis Island, von die Größe Osres bis die Breite Jamen. Dus is a land for mir und dir.
Ich geh ja rüber, die Berg und Terre, Arun Geringot von Sisse Keller, die Ritschkes murren, die Fego singen. Das ist ein Land von mir und dir.
Sehr groß und neue, mit der Schild des Wort, will Männer reinet, steht das Methodit, nur auf jener Seite steht dort ein Gott.
Gott ist die Zeit von mir und dir. Das Land ist dein Land, das Land ist mein Land, von Kalifornien bis Ellis Island, von die Größe Osres bis die Breite Jamen. Das ist ein Land von mir und dir.
Geh ich mir wogeln, gesund von Neuben, Weise binden, sind losgestäuben, durch die Tumanen her. sage, das ist ein Land von mir und dir.
Das Land ist dein Land, das Land ist mein Land, von Kalifornien bis Ellis Island, von die Größe Nordwest bis die Breitriade. Das ist ein Land von mir und dir.
Gassen in tiefe Schons, seh ich wie Menschen wetten die Dovis, bei Asadale stu ihr Sacklern, zu Dossis a Land von mir und dir.
Es kennt schon keiner und sich verstehen, die freie Welt und sich verwehren. Talking style.